Bonjour à toutes, je m'appelle Elena, je suis ukrainienne, j'ai 22 ans, j'habite à Bordeaux et pour l'instant je suis en licence de psychologie. Pour ceux qui sont peut-être confus par ma voix, je suis une femme, mais j'étais en testostérone pendant presque 2 ans et maintenant comme je suis en détransition, heureusement, j'aimerais partager mon chemin d'un homme trans à une féministe radicale.
Bonjour et bienvenue sur le podcast Rebelles du genre. Nous sommes des femmes, militantes pour l'affirmation et la protection des droits des femmes basés sur le sexe, et donc notre biologie. Le sexe est la raison de notre oppression par les hommes et le genre en est le moyen. Nous sommes les rebelles du genre. Nous observons aujourd'hui avec fureur des hommes qui envahissent nos espaces, agressent nos sœurs, revendiquent nos droits. Conditionnés à la gentillesse et touchés par leur victimisation, les femmes mettent en général un certain temps à comprendre l'arnaque du mouvement transactiviste et commencent souvent par soutenir cette idéologie. Puis elles ouvrent les yeux, constatent sa violence et la refusent. Ce podcast est là pour donner la parole à des femmes qui expliqueront pourquoi et comment elles sont devenues critiques du genre et qui témoignent de leur parcours. Écoutons leurs paroles.
Comme beaucoup de gens de ma génération, j'ai découvert le concept de transidentité en ligne quand j'étais un adolescent. Il pourrait être important de préciser que le mot que j'ai trouvé était exactement transgenre, pas transsexuel, parce que je pense que je n'y prêterai même pas attention dans ce cas, parce que remplacer le sexe par le genre vous libère de l'obligation de transition médicale afin de vous appeler en personne du sexe opposé, du sexe désiré. Il est donc apparu que c'était une façon très simple de se définir, de construire sa personnalité. Et c'est une chose principale que font les adolescents. Ils cherchent des moyens de s'exprimer, de mettre en valeur leur individualité. Cela doit être quelque chose de nouveau, de spécial, inhabituel, extraordinaire, particulièrement pour les enfants qui peut-être ne sont pas assez appréciés par leurs parents, leurs enseignants, etc. C'est donc des enfants qui ont une faible estime de soi au point où ils se sentent complètement perdus et comme s'ils n'existaient pas. Ainsi, représenter une sous-culture alternative ou des opinions politiques radicales ou changer de genre ou être non-binaire peut donner à un adolescent le sentiment qu'il est un être humain indépendant afin qu'il puisse célébrer sa propre personnalité. Et c'était mon cas aussi, je crois. D'ailleurs, je trouve très important de mentionner que je souffre du trouble de la personnalité narcissique et cette condition médicale a joué un rôle crucial dans ma transidentité. En fait, le narcissisme est souvent comorbide avec la transidentité. Il existe plusieurs études soutenant cette hypothèse. Personnellement, je pense aussi que la majorité des personnes atteintes de troubles de l'identité de genre semblent être narcissiques dans une certaine mesure. Et c'est l'une des choses sur lesquelles j'aimerais faire de la recherche scientifique à l'avenir. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, le principal besoin psychologique des personnes narcissiques n'est pas seulement d'être accepté et aimé, mais adoré, constamment loué et désiré. Les narcissiques ont besoin de pouvoir. Et maintenant, pour moi, en tant que personne sexuellement attirée par les femmes, être aimée et désirée par une femme, très important pour ma santé mentale. Quand je suis désirée, je me sens vivante. Il y a une question. Qui, dans notre société patriarcale, profondément sexiste, a ce pouvoir? Qui est considéré comme puissant, fort, possessif des femmes? Qui est désiré par la majorité des femmes? C'est un homme. M'appeler un homme était ma façon de gagner cet amour et cette acceptation. Est-ce que ça marchait? Franchement, cela marchait encore mieux que prévu. Après avoir commencé le testostérone, visuellement, je ressemblais à un homme. Personne ne doutait vraiment que j'étais un jeune homme. Je dois admettre que la vie n'avait jamais été aussi facile pour moi. Recevoir l'amour que j'ai toujours voulu est devenu si facile, même à nu. Parce que pour être considéré comme un homme beau et intelligent, bah, il suffit de prendre douche tous les jours, d'avoir une belle coupe de cheveux et de pouvoir parler de ses émotions directement. Par contre, Pour être considérée comme une femme belle et intelligente, vous devez être un million de fois mieux que cela. Être une femme désirée est une performance constante, c'est un vrai travail, et j'ai donc échappé à la réalité de la féminité, mais je ne me suis pas battue contre elle. Certaines personnes s'identifiant comme trans insistent que la transition médicale change réellement votre sexe, ce qui est faux. Ma voix grave et ma pilosité faciale ne font pas de moi un mâle. L'absence de menstruation ne fait pas de moi un mâle et aucun sentiment psychologique mystique d'être un homme ne fait pas de moi un mâle. Je l'ai toujours compris et c'est pourquoi je suis devenue féministe, parce que l'oppression de femelles est mon problème. Me qualifier d'homme ne peut pas effacer les années de mon oppression. Avec le temps, je devenais de plus en plus radical. J'ai commencé à être critique envers les hommes qui se disent femmes trans parce que personne parmi eux ne pouvait clairement dire ce que c'est d'être une vraie femme. Ils ont tous fini par énumérer des stéréotypes de genre comme aimer le maquillage, des robes, être douce, faible, etc. C'était le moment où j'ai refusé d'accepter cette absurdité, mais je croyais toujours que c'était normal d'être un homme trans, parce qu'ils sont des femelles, ce qui signifie qu'ils ne peuvent pas être des oppresseurs. J'ai donc exclu seulement les femmes trans du féminisme. Mais je ne pouvais pas continuer à me mentir comme ça pour toujours. Je me suis demandé si je n'accepte pas l'idéologie de genre pour les mâles, pourquoi je continue à l'accepter pour les femelles? En effet, parce que je ne voulais pas perdre mon pouvoir. Je ne voulais pas perdre cette attention envers moi. Toute ma personnalité était fondée sur le genre. Je me sentais spéciale et c'est ce que me rendait heureuse. Mais heureusement, je suis trop critique et orientée vers la science. Alors j'ai commencé à chercher des informations sur le genre auprès des féministes radicales, principalement sur YouTube. J'ai trouvé quelques chaînes, je peux vous conseiller si vous ne le savez pas. Il y a une chaîne de Magdalene Burns et aussi à Peak Trans. Bon, ces vidéos, elles m'ont réveillé en fait. Je ne pouvais plus nier la réalité. Et j'aimerais bien maintenant partager quelques notes que j'ai prises dans mon journal. C'était la journée après ma décision de devenir un des trans. Bon, c'était juste mes observations par rapport à des transitions. Je lis. Lorsque vous passez de femme à homme, vous obtenez du soutien, de la validation, de l'admiration pour votre bravoure. Lorsque vous êtes en détransition, les gens sont silencieux, indifférents et en même temps en quelque sorte déçus. Parce que c'est cool d'être un garçon. Ce n'est pas cool d'être une lesbienne. Les gens ne veulent pas vraiment que vous ayez exactement les mêmes caractéristiques. Mais en tant qu'une femme, je vois maintenant à quoi j'ai échappé pendant tout ce temps. Il est intéressant de voir que les femmes sont prêtes à être attirées sexuellement par vous dès que vous vous identifiez comme un homme, même si ce n'est clairement pas le cas. Elles croient en cette illusion, elles la chérissent parce que dès le début, on leur a appris à aimer les hommes. Ce mystique, mystérieux homme froid et protecteur qui peut vous guérir. Nous inventons cette image artificielle de l'homme pour guérir ce que le vrai homme a fait, abandonné, ignoré, agressé. Pourquoi nous, les femmes, mettons-nous ce pronom masculin sur nous-mêmes en pensant que cela nous rendrait complètes? Est-ce que nous avons vraiment besoin de nous associer à la population qui nous tue, nous viole, nous vole, efface notre histoire? Est-ce qu'on ne s'efface pas comme ça? Je pensais que être un homme trans signifie briser le système. Mais jamais je ne brisais ce système. Je jouais parfaitement ces règles comme une marionnette. Et voilà, c'est ça.
Cette phrase, ce que tu viens de dire là, c'est toi qui l'as écrit ou c'est quelqu'un que tu as cité?
Non, c'est moi, c'est juste mes notes dans mon journal quotidien. Voilà.
Ben écoute, c'est incroyable, incroyable de lucidité. Est-ce que tu as lu tout ce que tu avais préparé?
Oui, à peu près.
D'accord. Donc je peux te poser des questions maintenant si tu veux bien. Est-ce que tu pourrais me décrire, en fait, à partir de quand tu as commencé à envisager le fait d'être un homme trans, faire une transition sociale? Tu étais encore en Ukraine ou est-ce que tu étais déjà en France? Et tu avais quel âge?
Oui, c'était encore en Ukraine. Quand j'étais en adolescence, c'était plutôt quand j'avais 13 ans, 14 ans. Donc, c'est juste que j'ai compris que j'aimais bien les femmes, donc j'étais lesbienne. Mais par contre, je pense que à cette époque-là, c'était encore très bon, c'était pas vraiment acceptable, surtout en Ukraine. À l'Ukraine, la société est plus sexiste qu'en France, par exemple. Surtout si c'était en 2000, 2014, 2015, oui, c'était beaucoup plus sexiste. Et donc, pour moi, être une lesbienne, surtout à l'école, c'était très difficile. Et je voulais pas être quelqu'un exclu, tu vois. Donc, c'était plus facile de trouver une personnalité alternative qui peut-être pourrait être plus
Plus
comment dire,
accepté.
oui, acceptée, plus compréhensible en fait.
D'accord.
Oui, c'est juste plus facile de dire que tu es un homme parce que c'est logique. Si tu es un homme, tu aimes les femmes. Mais si tu es une femme qui aime les femmes, bon, c'est pas très acceptable. Être une personne transgenre à l'époque en 2015-2016, c'était en fait c'était un mode.
Oui, c'est ça. Donc en fait, c'était beaucoup plus acceptable d'être transgenre que d'être lesbienne.
Oui, c'était plus cool. Et maintenant, c'est beaucoup plus cool.
Oui, maintenant aussi, oui, bien sûr. Et donc
C'est
en
stylé.
Ukraine, ça s'est traduit comment? Donc tu as changé de prénom, comment ça s'est
Non,
passé?
pas du tout. Juste au niveau social, je disais à tous mes amis que bon, je suis un homme, j'utilise ce nouveau pronom, etc. Mais au niveau officiel, j'ai rien changé. C'était pas facile. C'était pas même possible pour moi avant que tu aies 18 ans.
Oui.
Voilà. Tous mes changements au niveau officiel, ils ont commencé ici en France. Et c'est une autre histoire. En fait, oui, c'est assez traumatisant parce que, bon, je suis venu en France. J'aimerais bien de m'intégrer comme un homme dans la société française.
Juste pour le dire, tu es venu en France à cause de la guerre.
Ah oui. Et c'était très difficile pour moi de m'adapter parce que la langue est nouvelle, tout est nouveau. Et bien sûr, avec la guerre, c'est beaucoup de stress et dépression, bien sûr. Et bon, je pense que je pensais que si au moins j'obtiens mon prénom réel, si je me présente comme un homme, ce sera plus facile pour moi, pour m'adapter, pour me sentir mieux. Et donc, pour ça, je suis allé à Toulouse. Il y a un médecin généraliste qui, en fait, il m'a donné une ordonnance pour le testostérone. C'était une question de quelques minutes. Il n'a pas posé assez de questions à moi. C'était pas important pour lui. C'est juste que j'ai dit, bon, je suis transgenre, je veux être en testostérone. Il m'a dit, OK, voilà ton ordonnance pour le testostérone. Et c'est ça, c'était tout. Donc c'était très, très facile. Et pour moi, c'est pas normal du tout. Et même, je sais pas si il a le droit de donner les ordonnances pour le testostérone en tant que médecin généraliste. Je pense pas que c'est normal.
Ben, en fait, aujourd'hui, si, la loi, elle le permet. Maintenant, sur le plan éthique, c'est vraiment discutable. Est-ce que ce médecin t'a demandé, par exemple, si tu avais subi des traumatismes, si tu avais...
Bien sûr que non. Et même, on n'a parlé pas des risques. Bon, avant, même avant le testostérone, j'avais des ovaires polykystiques, mais c'était pas très grave. Maintenant, après le testostérone, c'est grave.
Ben oui,
C'est
c'est
grave
complètement
et
incompatible.
je peux faire rien. On peut faire rien parce que notre médecine, ils s'en font.
Ça fait partie effectivement des contre-indications formelles. Enfin, la testostérone sur une femme qui a des ovaires polykystiques, c'est dramatique. Et du coup, pas d'analyse, rien du tout. Juste, tu dis je suis transgenre, pof, il te donne ton ordonnance. Mais pourquoi tu es allé voir ce médecin spécifique?
Parce qu'on m'a le conseillé. Bon, avant, j'étais à Pau. Et donc, à Pau, il y a une organisation LGBTQ, etc., pour aider des gens qui ont besoin de l'aide avec n'importe quoi concernant leur identité. Et donc, je suis allé à cette organisation et elle m'a donné les contacts des médecins généralistes qui peuvent donner des ordonnances pour le testostérone sans rien, en fait. Voilà.
D'accord. Et là, donc tu vas voir une association parce que tu as besoin d'aide. Et donc, avec le recul, est-ce que tu penses que cette association, elle t'a aidé?
Pas vraiment, parce que encore, on n'a pas échangé, on n'a pas parlé, ils n'ont pas demandé quoi, comment ça passe, et on parle pas de risque, on parle pas de à quoi ça sert. Donc, c'est juste, ils m'ont donné des contacts et c'est tout.
D'accord. Donc du coup, tu as reçu donc une ordonnance de testostérone. Comment ça se passait concrètement? C'est toi qui faisais les piqûres?
Au début, c'était une infirmière qui venait chez moi pour faire des injections. Après, oui, j'ai appris comment le faire moi-même.
Tu faisais des injections tous les combien?
Toutes les 2 semaines,
D'accord.
c'est assez souvent. Je prenais une grande dose parce que sinon, j'ai encore eu mes règles. Donc voilà, j'avais besoin de prendre une grande dose pour que les règles n'arrivent plus. Et bon, c'est grave, je pense que pour les ovaires polykystiques, ça a encore joué un rôle grand.
Oui, il y a des effets secondaires graves, oui.
Oui.
Et sur ton corps, sur le reste de ton corps, donc ta voix a mué, bien sûr, au bout de combien de temps?
Après 6 mois de testostérone, j'ai remarqué quelques changements, oui. Et ma voix, elle est devenue très grave, assez rapidement, oui. Et donc, c'est un changement irréversible, comment dire?
Irréversible, oui.
Oui, irréversible.
Et est-ce qu'il y a eu d'autres changements dans ton corps?
En fait, non. Je pense que j'ai la chance.
D'accord.
Il n'y a pas de changement grave. Oui, juste c'est la voix et les ovaires polykystiques, c'est tout.
Et la barbe?
Un peu, mais juste un peu.
D'accord. OK. Donc tu as arrêté la testostérone il y a à peu près 2 mois, c'est ça?
Oui, à peu près 2 mois. Mais en fait, même avant, j'ai eu des pensées comme ça par rapport à des transitions. Mais j'avais beaucoup de peur. Je pensais que, bon, c'est trop tard. C'est trop tard. Il n'y a pas de façon.
Le retour en arrière.
Oui. J'avais peur, beaucoup de peur. Parce que, bon, voilà, avec le testostérone, ma voix est grave. Et j'ai, je sais pas, j'ai quelques poids sur mon visage.
Oui, ça reviendra pas. C'est sûr que la voix, elle reviendra pas, mais.
Et même au niveau social, j'avais peur parce que, bon, je dis à tous les gens que je suis un homme et maintenant, je fais comment? C'est trop, bon, je sais pas, je veux pas déranger des gens. Tu vois, c'est très stupide en fait. Je veux pas déranger. J'étais anxieuse et oui, j'avais peur. Juste, j'avais peur que tous les gens seront déçus.
D'accord. Et tu as parlé de ton trouble de la personnalité narcissique. Est-ce que tu penses que ça risque d'aggraver ce problème-là? Ou est-ce, par exemple, qu'on t'aime plus suffisamment et que ça te génère d'autres problèmes?
Oui, bien sûr, comme je dis déjà, moi, en tant qu'une personne très narcissique, j'ai besoin de ressentir ce pouvoir dans ma vie quotidienne. Et pour avoir ce pouvoir, bah, c'est le plus facile moyen de le faire, c'est être un homme, parce que les hommes ont le pouvoir. Et voilà.
Et comment est-ce qu'il a été posé ce diagnostic par rapport au narcissisme? C'est un psy qui te l'a dit? Comment ça s'est passé?
Ah oui, c'était mon thérapeute, mais c'était en Ukraine. C'était même avant qu'on a parlé par rapport à transidentité. Donc, on n'a fait pas vraiment des liaisons. C'est moi qui faisais des recherches après sur Internet. J'ai lu des articles sur ça. Et bon, oui, c'est vrai que les troubles de transidentité, ils sont souvent très liés avec le narcissisme ou l'autisme aussi.
D'accord. Donc c'est une comorbidité et donc c'est quelque chose sur laquelle tu dois être vigilante maintenant.
Oui.
Donc tu as quand même pris cette décision courageuse de dire ben j'arrête. Et c'est vrai que ça demande beaucoup de courage parce que
Bon,
tu.
c'est grâce à Magdalena Dorn sur YouTube que j'ai trouvé. Oui, j'ai regardé ces vidéos et c'est juste que j'ai effacé la réalité.
Oui.
C'était pas possible. Avant, j'ai encore essayé de me mentir et de créer quelques arguments qui peuvent passer, mais maintenant, ça marche pas. Ça marche pas. Il n'y a pas de raison, il n'y a pas de logique, il n'y a pas d'évidence scientifique soutenant l'hypothèse qu'il y a il y a une identité au niveau de cerveau.
Oui, bien sûr, personne.
Et
Quoi qu'on te raconte.
il n'y a pas d'évidence pour ça. Et donc,
Non. Pas de preuve.
c'est complètement social, culturel et, oui, par conséquent, sexiste.
D'accord. Et justement, par rapport au sexisme, moi, en tant que féministe radicale, je connais un peu la situation en Ukraine, qui est d'une société qui est extrêmement misogyne. Et avec quand même des trafics de femmes en pornographie, prostitution et bien sûr
Oui.
l'attraction pour autrui. Est-ce que tu penses que ça a joué sur ton rejet de la féminité, ce contexte-là?
Ah oui, bien sûr, on est tous, surtout les gens de ma génération, on est tous traumatisés par par la culture de pornographie. Et oui, je peux te confirmer que ça jouait un rôle très grand et important dans mon sexisme, dans mon propre sexisme. Et oui.
D'accord. Donc maintenant, en fait, j'aimerais que tu réfléchisses à ce que tu pourrais dire à des jeunes filles qui seraient dans ta situation de il y a quelques années, les conseils que tu pourrais leur donner. Si tu devais t'adresser en fait à celle que tu étais il y a 5 ans, qu'est-ce que tu lui dirais?
Je pense qu'ici, c'est très important de les laisser tranquilles, de les permettre de se peler à un homme trans ou non binaire, n'importe quoi, au niveau social. C'est juste important de voir avec le temps que peut-être ce n'est pas la solution et en fait, ça ne change pas beaucoup de choses. Et même si tu t'appelles un homme ou non binaire ou genre fluide, n'importe quoi, tu vas voir que ça efface pas ton oppression. Tu n'es pas privilégié quand même. Ça te donne pas des privilèges. Oh, mince, comment dire?
Privilège
Privilèges, voilà.
ou davantage, oui, bien sûr.
Oui. Et donc, être une fille non conforme aux normes de genre, je sais que c'est insupportable. Et telles filles ne peuvent pas gagner l'acceptation et l'admiration sociale aussi facilement que les filles qui choisissent de se peler non binaire. Mais en fait, il n'y a pas de différence entre le concept de transidentité ou d'identité non binaire. Ça veut dire la même chose. Je suis non conforme aux demandes et aux attentes pour mon sexe. Alors, tu n'as pas besoin de coller une étiquette de transidentité sur toi-même.
Oui, c'est juste être féministe en fait.
Oui, parce que ça renforce des stéréotypes profondément sexistes et bien sûr, on ne peut pas parler de libération de femmes si on encourage des filles qui sont non conformes de se placer juste dans une autre catégorie au lieu de lutter contre ces stéréotypes misogynes. Voilà.
D'accord. Donc, accepter de ne pas être conforme, c'est bien.
Oui, c'est dur, mais...
Oui, c'est aussi l'adolescence, c'est aussi ça. Vouloir être intégré et en même temps être différent, donc arriver à trouver son individualité dans un monde où on veut te rendre conforme.
Oui, bien sûr.
Et depuis que tu as pris cette décision, donc il y a 2 mois, l'arrêt de la testostérone, comment est-ce que tu te sens?
Très bien. Je suis très, très contente. C'est comme je me suis finalement réveillée. Bien sûr, c'est dur par rapport à quelque chose comme ma voix, parce que, bon, quand je sors, je parle aux gens. Parfois, ils peuvent croire que je suis un homme. Et oui, ça ne me plaît pas vraiment. Mais. C'est rien vraiment, parce que ça récompense beaucoup. J'ai beaucoup de joie maintenant et je me sens sur ma place. Et finalement, je sais que mon corps, il n'y a rien d'incorrect. avec mon corps. Je ne sais pas.
En tout cas, moi, ce que tu me dis me remplit aussi de joie parce que je trouve que c'est tellement merveilleux d'arriver, après avoir traversé tout ce que tu as traversé, arriver à cette acceptation, bah, finalement, on n'a qu'un corps, chérissons-le, en fait. De toute façon, c'est comme ça. La réalité, c'est qu'on ne peut pas changer de corps, donc on doit vivre avec le sien le mieux possible. Et le fait que tu te sentes heureuse de cette décision, ça, c'est vraiment très, très, très encourageant pour toutes les personnes qui nous écoutent.
Oui, je suis très, très, très contente, surtout quand je parle avec des féministes radicales comme toi. Mais bien sûr, ça pose des problèmes, dans la vie quotidienne parce que pas tout le monde est féministe radical. Donc, c'est très, très difficile et c'est très difficile de vivre et savoir que le monde n'est pas construit pour toi, que ton pression, elle est toujours présente et tu peux faire rien en fait, toute
Ouais, et puis
seule.
toi, tu as la double oppression d'être une femme et d'être une lesbienne. Donc,
Oui.
mais le
Il n'y
mieux.
a pas de privilège. Là, il n'y a pas de privilège.
Ah
C'est pas
non,
cool,
non.
c'est pas stylé.
À double dose. Et en plus, t'es féministe. Alors là, vraiment.
Oui, voilà. Donc, même à l'université, en psycho, je ne peux pas vraiment parler trop. Parce que voilà.
C'est toujours pareil. Moi, le meilleur conseil que je donne, c'est de chercher, de trouver quelques amis. Pas beaucoup. Il en suffit de deux ou trois de personnes avec qui on peut partager ce genre de pensée. Ça suffit, en fait, pour se dire, je suis pas seule et je suis pas folle non plus. C'est le monde qui tourne mal. C'est pas moi.
Oui.
Et changer ton corps, ça ne fera pas changer le monde, en fait. C'est ça, il faut changer la société. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose?
Je pense pas, je dis plutôt tout ce que je voulais dire. Oui, c'est tout.
D'accord. Bon, bah écoute, je te remercie infiniment, Elina. Vraiment, c'était très touchant ce que tu as dit et tellement plein d'espoir aussi, parce que je sais qu'il y a beaucoup de filles qui sont perdues dans des transitions, qui souffrent en fait. Et se dire que, ben oui, le plus dur, c'est de prendre la décision d'en sortir en fait. Et à partir de là, ça va mieux. Tu arrêtes de mettre dans ton corps des choses qui lui font du mal, et puis tu apprends à grandir, à vivre autrement, quoi. Mais tu as eu la chance aussi d'arrêter à temps avant d'avoir fait la mammectomie et tout le reste, parce que plus tu vas loin, plus c'est difficile de revenir, quoi.
Oui, bah, j'ai beaucoup de ces espoirs en fait. Je pense que, j'espère que à l'avenir, il y aura plus en plus de filles qui seraient en des transitions.
Si aujourd'hui tu avais en face de toi une jeune femme qui envisage une transition et pourquoi pas des opérations, qu'est-ce que tu lui dirais?
Oui, ok, les gens qui se disent des hommes trans qui parfois ont ces pensées par rapport à des transitions, mais qui ont beaucoup de peur en pensant que c'est trop tard. Je veux dire que c'est jamais trop tard. C'est pas grave si tu as déjà tes opérations, si tu as ta voix très grave, très masculin, si tu as n'importe quoi. C'est pas important, c'est pas grave, c'est jamais trop tard pour détransitionner. Et en fait, c'est très important de se poser des questions honnêtes. Et c'est pas grave si au final tu es en détransition et tu ne conformes pas aux normes de ton sexe. C'est ça ce qu'on loot là, c'est pas grave.
On peut se tromper et reconnaître qu'on s'est
Oui.
trompé pour se. Enfin, c'est bien aussi, quoi.
Oui. Voilà.
Eh bien, écoute, Elina, je te remercie énormément de ce témoignage. Et merci vraiment
Avec plaisir.
cœur. Et j'espère que toutes les personnes qui nous écoutent pourront partager ces sages paroles. C'est jamais trop tard. C'est jamais trop tard. Et soyez bienveillante envers vous-même. C'est pas parce qu'on est des filles qu'on n'a pas de valeur. Voilà. Merci énormément, Elina.
Avec plaisir.
Merci d'avoir écouté notre parole et n'hésitez surtout pas à partager le plus largement possible. S'il vous plaît, signez la Déclaration des droits des femmes basée sur le sexe, womensdeclaration.com. Rejoignez-nous, n'ayez plus peur. Ensemble, nous ferons changer les choses. Si vous souhaitez témoigner, contactez-nous. Et à bientôt pour un nouveau témoignage de Rebelles du Genre.